Bonjour à tous et merci d'être là pour cette conférence post-digestion qui s'appelle « Vive la baston quand les héros sont sauvages ». Alors, première question, est-ce que vraiment, pour chacun d'entre vous, vos héros, vous les considérez comme des sauvages ? Thomas en premier. Allez. Ils vont se comporter en sauvage hein, avec plein de politesse, mais non, je n'en ferai rien.
Bah voilà, non, c'est pas, ce ne sont pas des sauvages, ce sont des gens qui sont acclimatés à la sauvagerie. C'est peut-être un petit peu différent. Enfin, bon, alors si je prends effectivement mon cycle Alone, qui est un cycle post-apocalyptique, c'est un monde qui est détruit et c'est un petit peu chacun pour sa peau. Donc forcément, la sauvagerie est présente. Et mes personnages sont adaptés à cette sauvagerie. Donc un de mes personnages rencontre quelqu'un qui lui veut du mal, effectivement, la baston, elle va très très vite arriver. Voilà. Après, dans mes autres romans, qui sont plutôt des romans d'aventure et des romans d'action, effectivement, mes personnages sont souvent confrontés à cette sauvagerie. Ouais.
Les miens ne sont pas des sauvages. Voilà, c'est ma réponse. Non, en fait, la plupart sont des arrivistes et en fait, en fantasy, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que pour arriver à ses fins en fantasy, il faut tuer des gens, sinon le lecteur s'ennuie énormément. Donc, la plupart veulent des choses et les obtiennent par la violence ou sont victimes de la violence et répondent par la violence. Donc, l'un dans l'autre, on se retrouve toujours avec des sauvages qui n'ont pas vraiment cherché à l'être.
Alors, de mon côté, ça dépend de qui on parle. C'est vrai que mes personnages principaux ne sont pas vraiment des sauvages. Et que j'ai tendance à ne pas mettre de baston quand elle n'est pas absolument nécessaire à l'histoire, ne pas aller rajouter des épisodes juste pour en mettre. Donc ce qui fait que finalement j'ai un premier tome qui est assez calme au niveau de la baston, avec un deuxième qui va s'énerver beaucoup plus, parce que tout simplement le récit le permet. Mais donc il y a effectivement à bord de ce bateau, de la gabarre qui remonte le fleuve, un certain nombre de guerriers qui sont des tueurs professionnels, et qui quand ils s'ennuient parce qu'il y a la tente, s'entraident entre eux.
Alors, on a un peu défloré le sujet avant de commencer, mais au final, qu'est-ce qui fait pour vous, et Gabriel vient de l'évoquer, mais est-ce que la violence, c'est la seule voie réellement pour rendre un livre de fantasy ou un livre de science-fiction pertinent et intéressant ? Est-ce que c'est vraiment le passage obligé pour que le lecteur s'accroche ?
C'est calibré un peu comme une série, c'est-à-dire qu'une série, s'il n'y a que de la diplomatie et des machinations, c'est sympa, mais ça devient assez rapidement chiant. Donc le tout est de distiller les scènes de violence ou la mécanique de violence de sorte à ce qu'elle ne soit pas complètement systématique ou à ce qu'elle ne tape pas sur la tête au sens figuré, en fait. Donc il y a une vraie alternance. Il y a des gens qui aiment l'action pure. En général, c'est un petit peu ennuyeux. Il y a des gens qui arrivent à alterner. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'arrive à alterner, mais j'essaye.
Moi, j'aime quand la violence finit par surgir alors qu'on l'attend un certain temps, parce que plus elle est rare, plus elle est puissante, plus elle est forte. Quand on sent que ça va monter, qu'on se demande si ça va péter, que ça pète pas, que les gens se regardent en chaîne faïence, que ça se désamorce une première fois, puis le jour ou le moment où ça déboule, ça fait vraiment mal et c'est beaucoup plus impressionnant. Pour ça, j'aime beaucoup la façon dont George Martin le fait, c'est que finalement, parfois il élude, parfois il ne le met pas. Et puis les personnages qui règlent tout par la violence, finalement, sont souvent perdants. J'aime beaucoup dans Le Trône de Fer. Une chose que j'aime beaucoup, c'est que Robb Stark, connaisse à peu près toute l'histoire, sinon je ne spoile pas, mais n'a jamais perdu aucune bataille. Il a gagné toutes ses batailles et pourtant, finalement, il perd la guerre.
Thomas, violence obligatoire ?
Violence obligatoire, tout dépend du contexte. C'est vrai que dans Alone, qui est un roman post-apocalyptique et un road movie où les rencontres se font et se défont, la violence est quotidienne et évidemment mon personnage y est toujours confronté. Après, il y a des façons de le faire et dans celui-ci, le parti pris que j'ai pris, c'est de le faire aussi avec beaucoup d'humour. Voilà. C'est-à-dire que j'assume totalement et pleinement ce roman qui est de la série B, qui est en plus un hommage à un autre roman post-apocalyptique qui s'appelle L'autoroute sauvage de Gilles Thomas. Et le second degré y est pleinement présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon personnage va être confronté à la violence, je vais aussi essayer de la désamorcer par pas mal de choses très différentes, le contexte, les personnages qui peuvent être un peu parfois drôles, les personnages qui l'affrontent. Hein. Je pense à un type, par exemple, dans Alone, qui se prend pour un pirate. Voilà, il a trouvé un vieux bateau, donc du coup, il se prend pour un pirate, ils sont habillés en pirate, etc. cette scène-là, j'ai voulu la traiter avec de l'humour. Ce qui fait que bon, on se retrouve presque dans une parodie de Peter Pan, voilà, et du capitaine Crochet, parce qu'évidemment son équipage l'appelle Crochet, voilà. Donc on peut la violence moduler de plusieurs façons.
Avec des perruques comme dans Pirates des Caraïbes,
ou ils ont exactement ça, ouais, tout à fait.
Ça peut m'intéresser.
Parlez dans le micro, Gabriel Katz, s'il vous plaît.
Stéphane, non.
Donc, Gabriel est éventuellement intéressé par des perruques, alors que Stéphane, il ne semblerait que non.
Je commence à me méfier de Gabriel tout d'un coup, là. Il me fait peur, là.
Et alors, est-ce que, justement, Gabriel l'a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que vous, si les histoires sont violentes, si l'environnement est violent, si la période ou le contexte est violent, est-ce que vos héros ou vos personnages doivent forcément l'être? Est-ce que vous pouvez envisager de raconter une histoire ou d'envisager un univers où l'univers est violent, mais le héros tente le pacifisme, un peu comme Solomon Kane au début, quoi?
Complètement.
Vas-y.
Non, moi je pense qu'on peut désamorcer une série de situations en passant à côté du combat. C'est vraiment aussi une question de l'histoire que tu écris, quoi. Moi je vais peut-être écrire des tomes où il y aura très peu de bastons, des tomes où il y en aura tout le temps parce que je ne sais pas faire autrement, quoi. Donc, mais après, il y a des personnages principaux dans mon récit qui sont des gens qui vont essayer chaque fois d'éviter la voie de la violence. Petit A parce que ce sont des gens altruistes et pacifistes, petit B parce qu'ils sont très mauvais avec une épée en main.
Bah, scénaristiquement parlant, ce qui marche le mieux, c'est la méthode western. C'est-à-dire qu'au départ, le héros, si héros il y a, il est censé avoir un potentiel quand même de violence, parce que sinon c'est une fiotte et il n'intéresse personne, façon de parler. Et au fur et à mesure, forcément, il lui arrive toutes sortes de choses qui font monter la tension, et le lecteur finit par se dire, il y a un moment ou un autre, il va s'énerver. Quand il s'énerve, c'est extrêmement jouissif. Ça, c'est la mécanique western. C'est voilà, on a tué ma femme, on a tué ma vache, on a tué mon chien, on a brûlé ma ferme, on m'a piqué mes bottes, etc. Et à la fin, le type finit par sortir sa Winchester, c'est terrible. Donc ça, c'est une recette qui marche bien. En fantasy, le truc, c'est qu'on a énormément de personnages, généralement. Ouais, énormément. Beaucoup de personnages, et ça permet aussi de gérer personnage par personnage et angle par angle le traitement de la violence. Donc certains vont être des grosses machines à frapper, et d'autres vont être au contraire plus des négociateurs, manipulateurs, des naïfs. Ou pas. Les naïfs meurent souvent dans mes bouquins, mais après, ça dépend. Voilà, voilà.
Oui, moi, dans Le Sabre de sang, qui est quand même un diptyque d'action et d'aventure, où il y a donc normalement beaucoup d'action et beaucoup d'aventures, je passe mon temps à éluder toutes les batailles et toutes les guerres. Donc il y en a, je crois, une seule de décrite, c'est-à-dire dans le tome 2 quand même, il faut attendre le tome 2 pour avoir une guerre et la voir décrite. Mais sinon, pendant tout le reste du diptyque, il n'y a pas une seule scène de guerre. Par contre, il y a des scènes d'action, effectivement, qui sont plus centrées sur les personnages eux-mêmes et sur leur façon de vivre ces scènes-là. Ouais.
Il faut savoir qu'en matière de bataille, au Moyen-Âge, les batailles sont très rares. Je parle du Moyen-Âge historique. Une guerre, c'est 80% de razzia sur les récoltes et les villages de l'autre, en général où les troupes s'évitent, avec parfois des vagues escarmouches. C'est le reste du temps pratiquement passé en siège, assiéger l'ennemi pour le bloquer dans sa place forte. Et finalement, la bataille, c'est quelque chose de très rare, qui est vraiment un risque pour les deux parties, parce qu'on sait que c'est très aléatoire et qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le triple des hommes pour vaincre l'Anglais. Par exemple, les Français l'ont appris souvent à leurs dépens, hein, notamment à Azincourt, où ils étaient, je crois, 5 fois plus nombreux. Ils ont quand même pris la ratatouille. C'est un jugement de Dieu.
C'est une superbe expression.
Oui, c'est, je suis belge, je vous l'ai dit.
Ils ont pris un rat sur la gueule.
Nous, les Belges, sommes un peu placés pittoresques dans notre parler. Voilà.
Et ça ne veut pas dire qu'ils se sont mis à cuisiner. Hein,
voilà. Voilà, ils ont cuisiné les Français et les Anglais. Mais donc, c'est un moment où c'est Dieu qui juge, pratiquement, dans la mentalité médiévale. C'est le moment où Dieu va trancher et donner la victoire à l'un ou à l'autre. Il faut savoir aussi qu'une grosse majorité des morts de la bataille ne sont pas dus à l'affrontement en lui-même, mais sont dus à la fuite et à la poursuite des fuyards. Quand on rompt les rangs, là, c'est la catastrophe, ça peut être la curée. Donc, finalement, c'est souvent assez éloigné de l'idée western ou romantique, très éloigné de ce qu'on voit au cinéma, où les rangs éclatent et où chacun trouve miraculeusement un adversaire appartenant au parti adverse sur lequel taper, ou bien sûr, on ne confond pas les camps. Voilà.
En termes de fantasy, par contre, on le fait pas vraiment. Parce que alors, imaginez la gueule d'une bataille qui se termine par 3 morts et après on cherche les fuyards et les blessés meurent en se vidant de leur sang. C'est très très ennuyeux. Donc on fait un petit peu plus épique.
Ça peut faire plusieurs chapitres.
C'est tout bidon.
Ça peut faire plein de chapitres différents.
Mais c'est ce qui veut dire que vous rendez tous les soldats héroïques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a personne qui fuit, il n'y a personne qui tue dans le dos, il n'y a personne qui achève les blessés. Si. Donc vous êtes des sauvages.
Ah oui, c'est totalement sauvage. Non, ça tue, ça massacre, ça crève les yeux et ça s'achève dans le dos. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, le côté vraiment réaliste de peu de gens meurent ou une escarmouche médiévale, c'est quelques dizaines de personnes alors qu'on imagine des énormes charges de vagues de cavaliers. Non, c'est pas vraiment ça. Donc nous, on en rajoute un petit peu parce qu'en fantasy, on peut, ce qui est bien.
On peut, mais on peut aussi prendre une approche réaliste. Et je pense que décrire une bataille ou beaucoup de choses, décrire le massacre, oui, moi j'aime bien, mais décrire le massacre qui se produit dans une fuite est quelque chose de très intéressant. On peut imaginer, allez, il y avait des coutiliers qui suivaient les armées pour égorger les blessés, par exemple. Pourquoi pas imaginer un roman qui raconterait la vie d'un coutilier ? C'est parfaitement sanglant, j'adorerais.
C'est le prochain prix des Imaginales à ma gauche.
Cette idée est donc désormais déposée. N'essayez pas d'écrire là-dessus. On saura que vous l'avez piqué à Stéphane. Alors, j'ai une question qui vient d'une autre auteure que je vais vous transmettre comme ça. C'est la question Marika Gallman, que vous connaissez tous.
Non.
Mais si. Votre personnage est violent, vos personnages sont violents, vos univers sont violents. On dit souvent que l'auteur met une part de lui dans ce qu'il écrit, une part de lui dans ce qu'il décrit. Est-ce que vous-même, vous avez des problèmes avec la gestion de la colère ?
Non.
Est-ce que vous êtes des gens pacifiques dans la vie ou plutôt...
Bon, alors, est-ce que Marika a une conférence, on va lui faire une question.
Elle est partie. Alors on a compris que Gabriel ne se battrait que contre des plus petits et plus faibles que lui. Mais voilà, est-ce que c'est quelque
on
chose...
Pouvait, hein.
Thomas, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt pacifique et calme dans la vie et que vous c'est une espèce d'exorcisme d'en parler dans son roman, dans ses romans?
Moi, je peux rien dire, ma copine est dans la salle. Hein. Faudra lui demander.
Vous n'êtes pas obligé de taper sur elle.
Non, mais. Voilà. Non, ou c'est l'inverse, on ne sait pas. Hein.
Qu'elle se dénonce. Alors, nous avons un peu de catharsis. Donc, Thomas Géa est victime de violences domestiques. On en parlera à une autre panel.
Mais pour répondre à la question, ses livres.
Pour répondre à la question, non, il n'y a pas spécialement de catharsis. Je pense que je suis quand même plutôt quelqu'un de calme et d'humaniste. Bon, enfin, c'est vrai que c'est un terme c'est vague, mais non, je suis pas violent du tout dans la vie. Mais par contre, c'est vrai que j'aime assez la mettre en scène dans mes romans. Ouais, c'est vrai que ça m'empêche de m'endormir devant mon ordinateur parfois. Voilà.
Mais est-ce que vous pratiquez des sports de combat, des sports violents ?
Le badminton, c'est un sport de combat.
Carrément, le volant dans la tronche.
Bon, bah voilà, alors j'en pratique.
Un peu. J'ai fait du taijitsu, du jujitsu, de l'aïkido et de l'aïkitaido, qui est un truc un peu, hein, qui mixe un peu tout ça. Donc ouais, je pratique. Alors je ne frappe pas sur les gens en général, assez rarement, genre moins d'une fois par semaine. Et c'est toujours des gens que je connais. Donc c'est des amis, par exemple, ça les met en forme, etc. On est pendant un dîner, tout ça. On en prend un au hasard, on frappe et ça donne des inspirations en fait pour les bouquins. Non, concrètement, non, c'est pas vraiment obligatoire de pratiquer. Il y a des auteurs dont je ne dirai pas le nom, parce qu'il ne faut pas dire du mal des gens, qui m'ont confié qu'ils achetaient des quartiers de porc, des carcasses de porc, et qu'ils avaient des épées, et qu'ils frappaient sur les carcasses de porc avec les épées dans les jardins pour voir l'effet que ça faisait, en me disant qu'on ne pouvait pas écrire un vrai livre si on n'avait pas une expérience technique, ce qui, pour la magie, quand même, représente un petit problème. Mais donc j'ai pas de carcasse de porc, et je pense que la pratique des arts martiaux ne m'a strictement rien amené au niveau littéraire. Par contre, ça me fait mal au mollet quand je... Ouais, bref.
Moi, j'ai une lectrice qui pratique l'aïkido et qui m'a envoyé un long mail pour me chroniquer Alone et qui m'a dit que mes combats étaient très bien. Parce que je me suis renseigné justement sur les techniques de l'aïkido. J'ai lu le que sais-je, voilà. Et elle m'a dit qu'elle avait rarement lu des scènes d'action aussi bonnes et aussi proches de ce qu'elle pratiquait.
Est-ce que tu as les noms en japonais ou pas?
J'ai quelques noms. J'ai le wakizashi.
Ah, quand même, oui.
Mais bon, voilà, c'est vrai, c'est juste pour l'anecdote. Mais
Alors moi, je suis carrément le vieux vétéran malchanceux couturier de cicatrices. C'est que j'ai longtemps pratiqué le combat médiéval à l'arme blanche avec des maîtres d'armes qui valaient ce qu'ils valaient, c'est-à-dire de bons gros copains avec qui on se tapait dessus joyeusement. Donc on a fait beaucoup de spectacles, de batailles, etc. Donc j'ai un peu connu le maniement des armes blanches et aussi le feu de la bataille, là, quand on est vraiment au milieu de l'action, quand on est en deux camps. C'est vrai qu'il y a souvent, notamment il y a des grandes reconstitutions, notamment à Tewkesbury en Angleterre, où on met vraiment 500 combattants face à face en deux rangs. Et c'est vrai qu'avec les armes d'ast, etc., avec les épées, ça tricote beaucoup. On s'observe, on se cherche, on cherche à repousser. Il y a vraiment les moments, donc ça peut durer assez longtemps en observation avant que vraiment on essaie de percer les rangs. Et c'est assez impressionnant à vivre. Et puis alors, bon, évidemment, j'ai pris quelques beignes quand même. Petit secret aujourd'hui intime, j'ai un petit doigt qui est plus court parce que mon meilleur ami a jugé bon de me donner un coup de hache d'arme à deux mains qui m'a sectionné une demi-phalange. J'ai une belle petite cicatrice ici sur le côté de l'œil. C'est un coup d'épée qui a ricoché contre le camail, donc la cagoule de maille qui est allée frapper en dessous de l'œil. Je ne sais plus si c'est celui-ci ou celui-là. Et puis alors, j'ai évidemment, après mon accident, j'ai la première pièce d'armure que je me suis achetée avec mes petites économies d'étudiants, c'était des gantelets d'armure. Des beaux gantelets, vraiment. Et quand même une épée qui a réussi à passer dans le défaut et à me rentrer un bon centimètre dans la main entre les deux doigts. Comme je suis musicien, j'ai fini par arrêter le combat médiéval. Je crois que c'était après le sternum fêlé, ça quand même, après le beaucoup des stocks de Jean-Marc. Mais donc voilà, c'est vrai que j'ai envie de décrire des combats, effectivement, à des batailles réalistes parce que je l'ai pratiqué et étudié. Mais je pense que vraiment, alors ça sort un peu de l'aspect peut-être romantique, épique, cow-boy, etc. Mais ça permet quand même de décrire les choses avec un autre angle d'approche. Et puis à côté de ça, je pense aussi que la guerre reste quelque chose d'atroce. Et moi, j'ai plus envie de décrire la thématique de la barbarie du combat, de ce que ça représente. Par exemple, allez, un truc qui m'écœure toujours, c'est que quand il y a des personnages féminins qui sont des combattants, elles tuent toujours proprement. Moi, je jure, si je mets un personnage féminin dans la bataille, je vais prendre un malin plaisir à décrire les blessures horribles qu'elle inflige à ses adversaires, les tripes qui sortent, etc. Vous ne la verrez plus de la même manière après, quoi.
Alors il faut lire Justine Niogret. Il faut lire Justine Niogret. Voilà. Si on a envie d'un personnage féminin qui tue pas proprement.
Mais il ne s'agit même pas de propreté, il s'agit de technique aussi. Quand on gère un personnage féminin, mon quatrième bouquin, c'est La maîtresse de guerre, c'est l'histoire d'une femme qui veut se battre dans un monde d'hommes où les femmes ne se battent pas. Et basiquement, en fantasy, on attend d'une femme. Vraiment. Basiquement, on attend en fantasy d'une femme qu'elle porte une sorte de bikini en cuir un peu ridicule, qu'elle ait deux petits couteaux et qu'elle saute en faisant comme ça parce que c'est une femme. Or là, cette fille, elle veut se battre avec une épée longue qui fait la taille d'une épée longue et le poids d'une épée longue, comme un mec exactement, ni plus ni moins. Et elle est très très mal reçue parce que justement, les gens ne veulent pas en entendre parler et elle essaye de elle gratte pour se faire former et pour y arriver ou non. Mais même mon éditeur, qui est quelqu'un qui a quand même confiance en moi, m'avait dit « Oui, trouve pas que quand même, pour avoir une technique un peu plus... » Bon, technique un peu plus, c'est deux petits couteaux, un bikini. Et en fait, j'ai dit non.
Et elle s'appelle Chun-Li.
Donc, les personnages... C'est pour ça que vous ne traitez plus de personnages féminins après, c'est trop compliqué, c'est ça. Alors donc on a maintenant vous avez appris que ne plaisantez pas trop quand même avec Stéphane Plateau au moment des dédicaces. Hein. Il a le moyen de vous répondre. Donc il est un tout petit peu sauvage quand même, même si ses personnages pour le coup sont un peu plus en nuance. Mais comment est-ce qu'on gère c'est tout le travail de l'auteur bien évidemment, mais comment est-ce qu'on gère dans un même ouvrage comme dans Manèche le barde qui pour moi est un violent psychologique. Et cette femme mystérieuse qui, elle, est un peu en retrait et pourtant suscite bien des intérêts. Parce que c'est deux modes de pensée différents, deux univers dans le même.
Vous pouvez expliquer le barde en violent psychologique.
C'est un menteur, c'est quelqu'un qui cache un peu la vérité, qui est pas honnête sur tout, et puis c'est lui qui raconte l'histoire, et moi j'ai eu l'impression qu'il disait pas tout. Voilà, c'est un cachotier, oui, mais dans cet univers-là, ça te fait de lui quelqu'un de potentiellement violent. C'est un peu comme Brent Wicks et son personnage. Il expliquait tout à l'heure que son personnage était un assassin, était un menteur parce qu'il voulait pas révéler des choses sur la magie dont qu'il était capable d'effectuer, parce que s'il en révélait trop, évidemment les autres magiciens viendraient lui péter la gueule. Donc est-ce que le mensonge c'est pas une forme de violence? Est-ce que toutes les violences sont physiques?
Bon, alors, il y a des évidences psychologiques qui sont intéressantes aussi. Par exemple, Xavier Delos, il dit qu'il est très doux, mais c'est un véritable bâtard de Bolton. J'ai des informations.
Ouais, c'est vrai, je confirme.
Non, mais c'est vrai que la violence psychologique, c'est quelque chose de, qui peut être très, très dur aussi, qui peut vraiment détruire les gens, détruire les êtres. C'est vrai qu'un personnage qui apparaît beaucoup dans le tome 2, qui raconte sa vie, la courtisane, on est aussi confronté à de la violence morale. C'est aussi, basiquement, l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un connard, d'un manipulateur. Ça n'arrive jamais. Voilà, donc c'est une autre forme de violence qui peut aussi faire de gros dégâts, y compris finalement dans le corps de la personne. Quoi.
Chez Gabriel Katz, il y a de la violence psychologique aussi.
Un peu. Un petit peu. Le principe, c'est vraiment le principe de la marionnette. C'est-à-dire, oui, la marionnette fait ce qu'elle veut, elle saute, elle est rigolote, elle a une petite épée en bois, et puis au-dessus, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et généralement, la personne qui tire les ficelles est assez rarement armée, assez rarement violent, et c'est ce genre de personnage qui a tendance à me fasciner un petit peu. Donc dans mon dernier bouquin, Eternia, qui traite un peu de religion, je ne vais pas spoiler la conférence de tout à l'heure, mais voilà, les gens qui sont les plus violents dans ce bouquin ne sont effectivement pas les gens qui égorgent, et il y a pourtant beaucoup de gens qui égorgent.
Thomas, vous pouvez gérer la violence psychologique de la même façon que la violence physique ?
Oui, ça dépend de ce que j'écris aussi. Enfin, ça dépend si c'est des nouvelles, des romans. Enfin, je dirais que j'en ai peut-être plus dans les nouvelles. Mais après, si je prends des romans comme Le Sabre de Sang, la violence psychologique, elle est plus utilisée effectivement par les personnages féminins, alors qu'ils soient humains ou reptiles, hein, je précise, parce que j'en ai quelques-uns, des reptiles. Mais c'est une violence qui est beaucoup plus sournoise peut-être, mais beaucoup plus forte aussi quelque part, parce que c'est une violence qui est beaucoup plus puissante. Finalement, la violence physique, elle est plus un instrument de cette violence psychologique qui est utilisée par ces personnages-là. Ouais.
Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas de scène de guerre, pas tout de suite en tout cas dans votre idéologie. Est-ce que vous avez envie d'en décrire des scènes de guerre ? Est-ce que les scènes de baston à deux, trois individus, c'est plus intéressant ou moins intéressant qu'une scène de guerre ? Donc j'ai compris que pour vous, la scène de guerre, c'était quelque chose qu'on élude. Moi, ce qui me semble hyper intéressant, ça me barbe profondément à la lecture, mais je sais qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Comment vous faites vos choix ? Est-ce que c'est plus intéressant de partir sur des grandes descriptions, Aragorn arrive avec une armée invisible et tout s'arrête, ou est-ce que la baston à deux ou les duels, c'est plus intéressant ?
Je crois que c'est une question d'angle, en fait. C'est-à-dire qu'une grande bataille traitée avec un grand angulaire, c'est une vue aérienne avec plein de fourmis qui se tapent dessus, donc c'est assez pénible. Si on raccourcit l'angle, en termes vraiment scénaristiques, on rentre dans la peau d'un personnage, quitte à les alterner pendant la bataille en disant voilà, lui il est là, il est au milieu de là, en face de lui il y a un mur de pique ou je sais pas, ou des archers, je sais pas quoi, il veut passer par là, ça va être monstrueux, derrière il y a son pote qui est en train de cracher ses tripes, c'est terrible, et donc du coup on rentre dans la peau de ce personnage et on commence à vivre la bataille. Après on peut changer de focale, on peut passer au cavalier qui lui est de l'autre côté, qui arrive dans la bataille, qui voit que c'est une sorte d'énorme masse de gens qui se tuent et il faut éviter de tuer les siens, etc. C'est, je crois que le succès pour avoir une scène de bataille, soit de combat de groupe réussi, c'est de changer de focale, en fait. Comme si on avait une caméra en main et qu'on se disait, voilà, maintenant je filme là.
Oui, c'est une bonne méthode. C'est clairement, quand on va rentrer dans l'action par le regard d'un personnage ou de plusieurs personnages, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus percutant, beaucoup plus efficace, qui rend beaucoup plus la violence du combat, l'affolement, l'adrénaline. On ne se souvient plus après un combat. Quand on traverse une bataille, bon, pour l'avoir fait pour du rire, mais quand même avec pas mal de copains, après on sort, ouah, terrible, comme tu m'as empalé sur ton épée à tel moment. Je t'ai croisé dans la bataille, je t'ai tué. Ça va tellement vite, on est tellement dans l'adrénaline, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à décrire. Et puis même la blessure, allez, petit tuyau pour les auteurs qui auront envie de décrire des mutilés. Moi-même, quand j'ai perdu mon doigt, ben, ça a fait une douleur qui était finalement... Il y avait un plafond, il y avait un palier. Ça m'a fait comme si on coinçait mon doigt dans une porte très fort. Je me suis dit, aïe. Puis j'ai voulu continuer le combat. Et j'ai d'ailleurs continué un peu le combat. Puis je me suis dit, mais merde, c'était quand même fort ce truc. Je dois quand même m'être bien arrangé. Je dois au moins avoir pété mon ongle. Puis j'ai retiré le gant. Puis je vous ai parlé de la description. Je ne suis pas très en veine de description aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aurais pu continuer le combat, sans souci. C'est parce que je me suis intellectuellement posé la question de savoir, là, il se passe quand même quelque chose d'assez sérieux. Ce coup de hache est arrivé à pleine volée, il n'était pas arrêté, il a touché le doigt alors qu'il aurait dû passer de l'autre côté de la gare, etc. Que je me suis dit, bon, allez, là, on va s'arrêter. Mais sinon, je pense que les gens qui courent avec leur trip en main, comme on le décrit dans les batailles, parce que l'adrénaline les porte, je comprends ce que c'est. Voilà.
Oui, moi, j'avoue que si on décrit des scènes de bataille, la focalisation zéro, moi, elle m'ennuie assez vite. Et c'est vrai que je rejoins plutôt Gabriel là-dessus, c'est qu'on a envie de rendre quand même les choses un peu cinématographiques. Hein, quand on est en plus dans une scène d'action, dans un roman d'aventure, vaut mieux rendre ça vivant. Et le changement de focale, comme tu dis, qu'on peut dire, enfin, on revient dans une focalisation interne, soit sur un seul personnage, soit sur plusieurs. Hein, et c'est tout à fait possible. Et c'est beaucoup plus gérable qu'une focalisation zéro qui va vite être assez morne, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'utilise plutôt ce procédé-là aussi. Ouais.
La difficulté, en fait, de ça, c'est que en changeant de focale, c'est très immersif, mais parfois le lecteur, voire l'auteur, ne comprenne pas ce qui est en train de se passer au niveau de la bataille. Donc, alors, il faut pas jouer la voix off non plus entre deux focales en disant ah oui, mais je vous explique que là, il y a une charge de cavalerie parce qu'on comprend pas. Il faut qu'on sache que dans la panique, dans la peur, dans le stress, dans le gros coup d'adrénaline, ces gens doivent quand même expliquer au lecteur ce qui est en train de se passer. Sinon, le lecteur ne comprend rien. Ou alors, on juge carrément qu'on ne donne presque pas d'infos, on tape aussi fort que possible, et à la fin de la bataille, il y a quelqu'un qui va faire une conclusion. Mais la vraie difficulté d'une scène d'action de groupe, c'est effectivement comprendre ce qui est en train de se passer.
De toute façon, à la fin, les aigles arrivent.
Ou ton directeur d'ouvrage.
Ou quoi ?
Ou ton directeur d'ouvrage.
Bien, alors est-ce que quelque chose qui moi me passionne quand on parle de violence dans les romans et qui agite souvent les discussions autour de la violence et autour de sa représentation, est-ce que vous pensez que c'est parce que le lecteur est en attente de ça? Est-ce qu'il a en lui cette forme de violence? C'est quoi la pétence pour cette violence? D'où elle vient, selon vous? Alors, vous êtes aussi lecteur, vous n'êtes pas que qu'écrivain.
Le lecteur, en fait, c'est le spectateur qui est assis dans les gradins d'une arène. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que au moment où il voit les combattants qui arrivent, sa petite adrénaline à lui, si j'ose dire, même s'il n'est pas en train de se battre, commence à monter. Et c'est quand il va voir se lever la herse de l'autre côté, le deuxième adversaire rentrer, etc. Bon, c'est une image d'arène, mais c'est un peu ça. Et je crois que le lecteur a une certaine jouissance finalement à sentir la tension qui monte jusqu'au moment où ça va exploser. Et je ne vais pas dire que c'est un peu malsain dans le fond, parce que finalement, dès que des gens se battent, on s'arrête pour les regarder dans la rue. Dès qu'il y a un accident, on s'arrête pour regarder dans la rue. Pas tout le monde, Dieu merci. Et en fiction, on est complètement décomplexé, parce que finalement, on a le droit. C'est la fiction, c'est rigolo. On peut les voir se saigner, c'est assez marrant. Ou pas. Mais c'est vraiment une question de montée de tension, c'est-à-dire qu'on rentre un petit peu dans la mécanique du monde et on se dit bah maintenant j'assiste en fait, je regarde. Et en plus on n'a pas honte, ce qui est chouette.
Thomas, une idée sur le...
De toute façon, je crois que le lecteur est un spectateur comme un autre, donc il a besoin qu'on lui montre des images et que ces images prennent le temps de monter, quoi, voilà, et que... Moi, je suis plutôt, ouais, effectivement, plutôt d'accord avec Gabriel là-dessus. Je trouve qu'il a très très bien décrit le processus et c'est ce qu'on s'attache à faire en tant qu'écrivain. Donc,
Moi, je pense que beaucoup de gosses jouent à la guerre et que c'est un peu la même chose avec le lecteur. On a ça en nous. C'est quelque chose qu'heureusement, dans notre société, on doit très très peu pratiquer, voire pas du tout. Mais on est aussi conçu pour un moment pouvoir réveiller en nous une certaine violence. Et je pense que quand elle arrive, vraiment, elle nous transforme et que dans les batailles, dans les vraies batailles, les gens bien peuvent devenir des vraies ordures. Et quand cette force se réveille, quand cette force se lâche, elle peut d'ailleurs être très difficile à éteindre. C'est pour ça qu'il y a autant peut-être de viols après les batailles aussi. C'est le même besoin de faire mal. C'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on n'exerce pas souvent, et Dieu merci, mais qu'on entretient peut-être parfois par le jeu ou qui fait partie de notre nature et qui doit avoir un exutoire.
C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de viols quand on finit de lire le livre.
Non,
c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Voilà.
Donc, l'écriture et la lecture sont des catharsis, en fait, quoi, visiblement. Quoi.
Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites sur cette espèce de côté un peu voyeur du lecteur qui lit les scènes de violence et de bataille comme s'il regardait un accident sur le bord de l'autoroute. Et ça expliquerait peut-être pourquoi... parce que moi, c'est un truc... questionne souvent. On dit qu'il est plus facile de mettre en scène la violence que de mettre en scène la sexualité. Est-ce que peut-être c'est parce que nous ne sommes pas tous des mateurs de YouPorn, quoi. On n'est pas tous intéressés par ce regard sur le. On regarde pas tous des films de cul. Pour faire. Voilà. Il n'y a pas d'enfants dans la salle, hein, vous n'en avez pas amené. Merci.
Non, mais c'est une question de tabou, en fait. C'est une question d'ellipse. C'est-à-dire que dans les livres ou dans les séries ou dans les films, en général, la scène dite scène de cul, scène de. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez, la scène d'amour, etc. En général, c'est une ellipse. C'est on passe au noir, ils s'embrassent un petit peu, puis fondu au noir, terminé, on passe à autre chose. Ou bien, dans le bouquin, on va faire un petit. Quelque chose de suggestif, de sympathique, et puis on passe à autre chose également. Je crois que c'est vraiment une question de tabou. La violence n'est plus tabou depuis très longtemps. Donc on peut passer dans la triperie la plus totale. Le sexe, oui et non, mais si c'est pas spécialisé, bon, 50 nuances degrés, c'est bon, il n'y a pas de problème, il ne parle que de ça. Je ne l'ai pas tellement lu, mais voilà. Donc bon. Mais. En général, la scène d'amour, entre guillemets, pour rester poli, elle est complètement éludée. Elle est complètement. On passe de façon un peu nunuche dessus. Je ne sais pas pourquoi. Et de temps en temps, il y a une scène un petit peu crue, histoire de dire, tiens, moi aussi, je sais. Mais c'est assez rare.
Est-ce que c'est parce que le sexe, c'est de l'ordre de l'intime, alors que la violence, c'est quelque chose qu'on externalise vers l'autre ? Je pose des questions philosophiques. On en profite. Si on peut régler 2-3 trucs tous ensemble.
Bon, ben, je sais pas vraiment répondre à la question. En tout cas, moi, je viens d'écrire une scène de bataille, de violence, qui se termine par une scène de cul. Donc, voilà. Mais je m'attendais pas à la scène de cul après. Elle est venue toute seule, naturellement, parce que mes personnages se sont laissés en. J'ai des visions de cul à pattes. Là, ça va pas. Non, mais c'était ça que je voulais explorer. C'est le. Non, non, mais le. La pulsion. Pouvez-vous sortir 5 minutes? On va se reprendre, on vous assure. C'est le fait que dans la violence, il y a quelque chose qui est éveillé, d'adrénaline, quelque chose qui s'est prolongé naturellement là. Oui, de reptiliens. Oui,
voilà. Ça, c'est chez moi, ça.
Oui, t'es tueur de sang-froid.
Thomas, le fait de faire des personnages qui soient reptiliens, c'est en rapport avec le cerveau reptilien ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Moi, c'était plutôt un hommage à Robert Howard. Voilà, parce que bon, depuis Robert Howard, j'aime les reptiles. Mais par contre, effectivement, on m'a reproché cette absence de sexe interracial entre les reptiliens et les humains, alors qu'il y a eu une possibilité dans le roman. Mais
là, on me l'a
vertement reproché.
Comme le dinoporn.
Quand même.
En même temps, qui est attiré par un reptilien ? Mais bon. Ouais.
On ne sait pas, on ne veut pas savoir.
C'est ça. Les écailles sont peut-être douces.
C'est comme la magie, on n'est pas au courant, mais visiblement, on peut écrire dessus.
Ah oui, on peut.
Et est-ce que vous pensez que tout se résout par ça ? Est-ce qu'il y a un moment où vos héros, vos personnages, vos situations... Non. Soyons tous des bonobos et résolus et trouvons des solutions par le sexe. Ça sera beaucoup plus simple. En plus, moi, je me bats super mal. Donc, mais non.
Et donc, ça veut dire...
il est très fort. Mais est-ce qu'on... Non, se résout par la violence. C'est le thème, enfin. Est-ce que toutes les histoires se résolvent par la violence ou est-ce que les solutions pacifistes existent ? Est-ce que vous proposez d'autres voies ? Est-ce que le héros, est-ce qu'il y a un climax de violence ? Climax, mince. Pardon. Est-ce qu'il y a un crescendo jusqu'à un top de violence et puis et on trouve une résolution ailleurs ou autrement ? Est-ce que vous pouvez envisager que les gens ne se tuent pas, que le... Je sais bien que pour Gabriel, c'est moins intéressant de proposer des choses. Où... Non,
non, je peux spoiler un petit peu, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. J'ai fait donc une première trilogie qui s'appelle Le Puits des Mémoires. Et pendant 3 tomes, la tension monte très, 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 très fort. Et on s'attend à une bataille monumentale à la fin. Et on n'attend que ça. Et je me suis fait lyncher par les lecteurs à la fin du tome 3. Il y en a qui rigolent là. en disant mais ils sont face à face, ça monte, et ça va être la bataille la plus monstrueuse, la plus épique, la plus totale de l'histoire de l'homme, et il ne se passe pas, rien, pratiquement rien. Donc c'est terrible parce que le lecteur attend pendant 3 tomes, ok, il y a d'autres gens qui se saignent, mais cette espèce de terrifiante bataille finale, voilà, j'ai spoilé là à tout le monde, n'a pas lieu, ou pas comme on voudrait, ou pas comme il faudrait, et c'est une sorte d'énorme frustration. Alors si on fait une analogie avec ce qu'on disait avant, ça doit être terrible, mais on ne fera pas d'analogie parce que peut-être qu'il y a des enfants qui sont rentrés entre-temps.
Oui, c'est vrai que c'est aussi un des schémas qui est très très efficace et dont on a un peu du mal à s'affranchir parce que justement ça marche bien, c'est terminer un tome ou une histoire par quelque chose qui soit intense au niveau de l'action et de la violence, c'est quand même quelque chose de très très efficace. Il y a un autre endroit où il est très utile d'avoir quelque chose qui fasse vraiment vibrer le lecteur et qui soit de l'ordre de l'action, c'est le début, le premier chapitre, etc. C'est aussi une technique qui est souvent utilisée, c'est de mettre de l'action au début. Et puis après, l'action, ça peut, voilà, c'est pas seulement du baston, il y a plusieurs formes d'action, quoi. Par exemple, moi j'ai commencé Manèche par une scène qui a une certaine dose d'action, mais sauf que c'est une opération de chirurgie, d'opération de la jambe d'un gars qui a une triple fracture, et c'est terriblement sanglant et barbare, il y a de quoi déjà en avoir un peu la nausée, mais il y a une certaine tension, il y a une certaine action, or ce n'est pas de la baston, donc il y a moyen d'éviter ça. Et puis bien sûr, dans la façon de résoudre les histoires, il y a souvent plus intéressant à faire que l'affrontement classique.
Ouais, bah, moi, sans vouloir spoiler sur le sabre de sang, c'est vrai qu'à la fin du tome 1, je fais totalement le ménage. Enfin, en tout cas, mon personnage principal fait totalement le ménage.
Ton jeu, c'est intéressant.
Ouais. C'est pas faux. C'est parce que mon personnage parle par le jeu, donc forcément, allez hop, je me suis... Non, je me suis fait avoir, j'avoue. Mais bon, et effectivement, moi, là, j'ai des lecteurs un petit peu comme Gabriel qui m'ont reproché, ou, enfin, qui ont été catastrophés par la fin du tome 1, parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel déchaînement de violence, et surtout concernant les personnages principaux, quoi, voilà. Mais c'est un diptyque, donc pas une duologie, mais un diptyque plus, qui met en scène deux personnages différents, c'est-à-dire que le premier tome est raconté par une voix et le deuxième par une autre voix. Donc on a vraiment deux personnages principaux, c'est un véritable affrontement, hein, donc la violence elle est forcément là. Et la fin du tome 1 en surprend effectivement plus d'un dans ce domaine-là, parce qu'il ne voit pas le truc venir, quoi.
Donc ils ne sont pas sauvages, mais ils sont sadiques. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ah oui, donc le surnom Gabriel, c'est Bolton.
J'ai un surnom, non, c'est pas moi.
Ah bon?
Non, je n'ai pas de surnom. En fait.
Si, mais on n'en parlera pas là.
J'aime bien ce personnage en plus.
Ah oui? C'est intéressant, le jeu et le Bolton comme personnage préféré.
Ça y est, je suis définitivement infréquentable.
Ah, tu parlais tout à l'heure de violence psychologique, ça c'est magistral dans le Trône de Fer. La violence psychologique du bâtard de Bolton, c'est vraiment le personnage le plus ignoble de la saga. Et finalement, il ne dépèce pas vraiment ses victimes puisqu'il y va vraiment par petits bouts.
Les avis diffèrent, psychologique, la violence certes, mais enfin l'émasculation, ça reste assez physique quand même.
J'ai une scène quasi similaire dans Alone, sauf que c'est avec un sécateur.
Ah ouais, le féminisme actif avec un sécateur. Bon, alors ma question finale qui vient aussi de Marc Gagelman, qui est la question bonus, mais malgré tout, vous aimez quand même les bisous.
Nous les... Faut le tour du masseur, ça. Alors nous les Belges sommes un peuple excessivement doux et câlin.
Les Bretons ont le baiser un peu plus rude.
Et tout dépend de qui vient le bisou.
Et ben voilà, alors une petite annonce à vous faire. Malheureusement, le livre de Stéphane est en rupture de stock. Vous pouvez l'acheter ailleurs qu'ici, puisqu'il n'y en aura pas d'autres.
C'est juste le prix des imaginales, faut-il le dire.
C'est le prix. Mais alors donc, pour compenser un petit peu ce manque absolu, parce que vous auriez pu l'acheter maintenant, l'avoir dédicacé, tout ça, il va faire une lecture à 15h du premier chapitre de son livre. Donc je vous invite à aller l'écouter, surtout qu'en plus, moi, à 15h, c'est ma pause conférence. Donc revenez me voir à 14h. À 16h, je fais un autre truc ailleurs. Voilà. Merci à tous.
Et merci, messieurs.
Merci.